בוקר טוב הרב.
שלום.
שלום הרב.
הלאה.
שבוע טוב.
שבת שלום ומבורך. נשלח כתוב בעניין שבוע.
ברוך השם.
טוב. Eh bien,
מה אני?
je pense que j'ai perdu un peu la voix, donc vous allez m'excuser, je suis un peu enroué aujourd'hui, mais je pense que ça ne nous empêchera pas d'étudier. Voilà.
Pas de soucis.
Sinon, je vous l'aurai. Bon, alors, je pense que le mieux, c'est de continuer dans Ota Tshuva, si déjà on en est là. Et je pense que nous en sommes arrivés au chapitre Tetzain, toujours, évidemment. Et je pense qu'on en est à Yud Aleph. N'est-ce pas?
À Yudalefa,
Je crois, oui.
on a fait, c'est possible, on a joué un trou. Et tu vois, il y en a, il y en a.
Ou bien je me
Possible.
trompe.
Moi, peut-être que c'est moi qui me trompe. Alors. Non,
Est-ce que
ouais,
tu...
non, vous avez peut-être vous avez raison, grave, je crois. Yudalef.
On est à Yud Aleph, c'est ça.
Ouais.
Voilà. Je t'aime les coups d'autres, c'est ça. Je t'aime les coups d'autres et je t'aime la tchouva. Il y a deux points de la tchouva. C'est point, 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 c'est-à-dire un centre de gravité. Voilà. Il y a deux centres de gravité dans la Teshuvah. La Teshuvah ressemble un peu à une ellipse avec deux foyers. Alors, le premier foyer, c'est. Une seconde, il y a le téléphone qui me dérange ici. Je vais le débrancher. Donc, Shtei Nekudot Yeshla la Teshuvah. La Teshuvah a en fait deux foyers. Ce qu'on appelle She'anu Kolelim Otam Beshem Teshuvah Ila ou Teshuvah Tita, que nous incluons dans les deux termes kabbalistiques, en vérité, de Teshuvah Ila et Teshuvah Tita, c'est-à-dire la Teshuvah supérieure et la Teshuvah inférieure. Nous allons voir que les deux formes de Teshuvah sont pratiquement contradictoires, elles sont antithétiques. Il y a une Teshuvah vers l'intériorité, il y a une Teshuvah vers l'extériorité. Alors, la Teshuvah vers l'extériorité, c'est ce qui est connu dans le monde de la halakha. C'est-à-dire, si j'ai transgressé la Torah, alors, ou bien j'ai transgressé la morale, eh bien, je dois réparer. Cette réparation se fait à l'extérieur. On ne peut pas dire j'ai fait la Teshuvah intérieure et ça suffit, non. Mais il y a également une Teshuvah intérieure. La Teshuvah intérieure est supérieure. Elle est appelée également Illa, supérieure. Et en fait, ça implique deux formes totalement différentes de comportement. A Teshuvah Illa, il y a Teshuvah Be'ad Atzmo. Vatita hi betza be'ad haolam. Alors la Teshuvah supérieure, c'est celle que l'on fait pour soi-même, tandis que la Teshuvah Tita, c'est la Teshuvah inférieure, c'est celle que l'on fait envers le monde. C'est-à-dire que j'ai en fait deux choses à réparer. Je dois me réparer moi-même et je dois réparer mon investissement dans le monde. Et là, nous avons ici un grand principe du Rav Kook, dans lequel il est un peu différent probablement de l'enseignement du Baal HaSoulam, un enseignement essentialiste plus qu'existentialiste. Regardez la phrase. Le'olam anikuda ha'atzmit ha'miyuchedet shel ha'adam b'tochiyuto, toujours le point essentiel qui est particulier à chaque homme dans son intériorité, Yarbe yoter gvoa, c'est beaucoup plus élevé, Nisgava vena'ala, sublime et élevé, Mikol machu shofa mimenu velachutz, que tout ce qui en découle de lui vers l'extérieur. Alors que on peut être tenté, il y a des enseignements de ce genre qui disent que l'essentiel de l'homme, c'est la relation envers le prochain. Eh bien, pour le Rav Kook, non, non, non. L'essentiel de l'homme, c'est la relation envers son être intérieur, envers lui-même. À partir de là, il y a des dérivés. Les dérivés, c'est le comportement envers les autres. Mais ça commence par l'intériorité. C'est un grand principe qu'on retrouve également, par exemple, à propos de ce qu'on appelle l'enseignement. D'où est-ce que je tire mes connaissances? Alors, il y a les connaissances qui sont tirées de l'expérience sensorielle. Par exemple, les enfants, les bébés, quand ils viennent de naître, ont une quantité énorme d'informations qui leur vient de l'extérieur, du contact avec leurs sens et le monde. C'est-à-dire, ils ressentent le ventre de sa mère, le sein de sa mère, le lit. la couche, etc., il y a beaucoup d'informations qui nous sont données par les sens. Et il y a également des informations qui nous viennent de la vie émotionnelle. Les émotions que nous ressentons nous donnent également des informations. Beaucoup plus élevées que ça, il y a les connaissances intellectuelles, ce qui nous vient de l'intelligence. Mais le Rav Kook rajoute qu'il y a également une autre source d'information, c'est l'âme, la neshama. C'est-à-dire que du sein de ma neshama peuvent me venir des connaissances. Et ces connaissances me viennent de l'intérieur. On peut dire du supérieur, du suprême. Eh bien, bon, c'est un peu dangereux parce que si on se base uniquement sur son intuition intérieure, on risque de faire de grosses erreurs. Mais une fois que l'on a acquis la connaissance des sens, la connaissance émotionnelle et la connaissance intellectuelle dans leur plénitude, c'est alors que les rayonnements que l'on peut recevoir de Shaneshama ont un sens. Eh bien, ce que nous dit le Rav Kook ici, c'est que la vie intérieure, la Teshuvah intérieure, étant donné qu'elle vient du point le plus originel de l'être humain, est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante en fait, que la teshuva qui se fait vers l'extérieur. Et donc, il y a ici, on peut dire, deux mouvements, et le Rav va nous décrire ici les deux mouvements. Yesh Adam, shekshehu ba lidei teshuva ha'atzmit shelo. A teshuva ha'atzmit shelo. Il y a des hommes un homme qui, lorsqu'il vient à s'occuper de sa teshuva essentielle, ayatzer l'arbot marshava. Il lui est nécessaire d'abonder en pensée. Les pensées, c'est-à-dire en réflexion intérieure. Ce qui peut l'entraîner à moins étudier. Les harbot betziur, il doit abonder en représentation, en image. C'est ça qui l'amène à moins agir.
Excusez-moi, Rav, c'est en essayant de couper le micro de quelqu'un d'autre. Excusez-moi.
Terrible, c'est terrible. Enfin, je vais m'en remettre. Beika, les akher et surtout pour purifier son intériorité, tsaruf behemet, afin d'être véritablement nettoyé et véritablement libre. C'est ce qu'on appelle l'examen de conscience, la vie intérieure, la méditation. Et donc, quand on est dans cet état-là, qu'on fait sa teshuva intérieure, alors on étudie moins et on agit moins, parce qu'on est occupé à la réflexion et à la représentation, à l'image. Tout ceci concerne la teshuva supérieure, la teshuva essentielle. Lokahu omnam ba teshuva atita. Mais bien en vérité, ce n'est pas le cas pour la teshuva inférieure. A teshuva she klape haolam, la teshuva que l'on fait envers le monde. Kana davar mitralef. Et là, la chose s'inverse. Vechrachu learbot betalmud uvemaaseh. Et il est indispensable d'abonder en études et en actions. Afalpi sheba aliedeze miut baigayon uva machashava, même si cela entraîne une réduction de la pensée intérieure et de la réflexion. C'est-à-dire, soit je suis dans l'action extérieure, soit je suis dans l'action intérieure. Évidemment, il y a une contradiction. Velifamim, mi'ut abihirut shel ha'higayon veshel ha'machshava atzma ou tikkun klapei ha'olam. Et parfois, le fait d'avoir moins de clarté dans la réflexion et dans la pensée, c'est en soi la réparation envers le monde. C'est-à-dire, il est parfois nécessaire que j'arrête de penser, de trop penser, de trop méditer, et que je m'occupe de réparer envers le monde. Mipnei shen ha'olam ha'chitzoni tofes et ha'tochen shel ha'machshava ha'netzelet v'et bi'irut ha'higayon. Parce que le monde extérieur n'appréhende pas le contenu de la pensée noble et la clarté de la réflexion. C'est-à-dire le monde extérieur, il en a chaud, il n'en a rien à faire de mes pensées intérieures. Le monde extérieur demande que j'agisse sur l'extérieur. Alken mitkarvim. Et c'est pour ça qu'on s'en rapproche en obscurcissant d'une certaine manière la réflexion. Aval, mais ce qu'il faut savoir, que nous sommes appelés à tenir en main les deux formes de teshuva ensemble. Ah bon, comment cela est-il possible? Eh bien, le Rav nous propose ici une nouvelle conception des choses, vers teshuva hateta'a, ikmo guf ukli la teshuva ha'ila. La teshuva inférieure servira de corps et de réceptacle à la teshuva supérieure. C'est un peu comme le corps et l'âme. Alors c'est vrai que le corps a ses aspirations et que l'âme a ses aspirations. Mais le lien entre le corps et l'âme est un lien qui permet la vie. De même dans la teshuva, je dois m'occuper à la fois de ma teshuva envers le monde, la teshuva inférieure, et de la teshuva vers mon intériorité, la teshuva supérieure, à la manière du corps et de l'âme. Vetzarich, lechonen et amahamadim betzura kazot. Et il faut mettre en place les états. Shikola ataka shel teshuva ila tati gamken teshuva etita litrofota klapemala. Que tout mouvement de la teshuva supérieure entraîne un mouvement de la teshuva inférieure vers le haut. Vechol ataka shel la teshuva atita. Et que tout mouvement de la teshuva inférieure renforce et donne puissance à la teshuva supérieure. Bien que dans leur forme extérieure, elles semblent se contredire, dans leur intériorité, Inan teren re'in de la mitparshin, elles sont comme deux amis qui ne peuvent pas se séparer. Expression tirée du Zohar. Donc nous avons ici, je vais résumer très rapidement ce que nous avons vu, c'est que nous avons deux formes de teshuva, la teshuva supérieure et la teshuva intérieure. La teshuva supérieure, c'est le retour de l'homme à lui-même. La teshuva extérieure, c'est la teshuva que l'homme fait envers le monde. Et dans le cas de la teshuva supérieure, qui est l'essentiel, il y a une sorte d'abandon de l'étude et de l'acte pour se concentrer dans la pensée, la réflexion et l'imagination, tandis que dans la teshuva inférieure, au contraire, il faut moins réfléchir et plus étudier et faire. Et l'idéal, c'est donc de faire les deux teshuvot à la fois à la manière du corps et de l'âme, et bien que extérieurement, ça semble demander un investissement contradictoire de la part de l'homme, eh bien, en vérité, elles sont une seule et même teshuva, comme deux amis qui ne se séparent pas. Voilà. Donc, nous avons fait le Yud Alef.
Rav Shirky,
oui, allez-y.
Yeshli Sheila.
Allez-y.
Il dit, l'élimoud, ça m'a frappé cette histoire de la harbot betziyur.
Oui.
Ce qui veut dire
s'exprimer. La harbot betziyur, ça veut dire abonder en représentation intérieure, les images. Il y a un monde entier dans l'être humain. C'est le monde de l'imaginal.
Okay.
C'est un monde que nous connaissons chez les artistes en particulier. Mais on connaît ça également chez les mystiques, par exemple, ou toute personne qui a une vie intérieure intense.
Ah, ça ne veut pas dire bitul Torah et
aller. Non, c'est pas un bitul Torah, c'est simplement connaître les choses dans la vie intérieure. C'est une autre manière d'agir.
Mm-hmm. Toda.
Akasha. Eh bien, puisque c'est comme ça, je pense que nous allons passer à Yud Aleph. Astérisque.
Oh.
Là, nous avons ici la clé du lien entre les deux formes de teshuva. Aliede oradat mitrabrot en shete hateshuvot. Par la lumière de la connaissance se réunissent les deux formes de teshuva. Ha'illaa ve'atita, la supérieure et l'inférieure, ve'na'asot lechativa nifla'a achat, et deviennent une seule grande entité merveilleuse. Ha'ubechadeshet az baguf uvaneshama, et permet d'innover dans le corps et l'âme, ba'uma ba'olam uva'olamim kulam, dans la nation, dans le monde et dans tous les mondes, he'ara nosefet v'chashuva, un surplus de lumière importante, she'tzarich ha'adam la'avod avodot arbe, et les hommes devraient travailler beaucoup, mada'iot musariot ma'asiot itiviot misgiot, aussi bien scientifiquement que moralement, pratiquement et naturellement, k'delit lot me'at me'arbe me'otzrot ma'amakea, pour en tirer un peu des trésors de ses profondeurs, Meléa Chaim Vashire Aora Vashimcha, rempli de vie et riche de lumière et de joie, Memutaker Haoneg Vanitsriyut, qui sont adoucis de délices et d'éternité. Bon, alors, c'est quoi tout ce qu'il dit ici, le Rav? Pour comprendre le terme employé par le Rav, c'est le mot horadat, qui, à mon avis, ici, le plus important, à l'idée horadat, la lumière de la connaissance. Le terme dat, chez les kabbalistes, représente une séphira, une émanation divine, qui a la faculté de réaliser l'unité. Alors, comment est-ce que se manifeste cet élément d'unité, cette sorte de colle qui met ensemble des éléments contradictoires? Eh bien, ça se manifeste si on n'y fait pas attention. C'est-à-dire, par exemple, j'ai deux domaines dont je m'occupe, par exemple, dans ce cas particulier, la teshuva ila et la teshuva tita, la teshuva supérieure et la teshuva inférieure. Pour les réunir, il faut que je m'occupe de chacune des deux formes de teshuva séparément. Je ne peux pas m'en occuper en même temps. Et quand je fais ça, eh bien, c'est là que je permets à mon insu, à la lumière de la connaissance de se manifester. C'est là que l'unité va se faire sans que j'y prête attention. Dès que j'essaye trop de regarder la chose, ça ne se fait pas. C'est un peu, pour rendre une image, dans la physique quantique, on dit que si l'observateur se mêle de l'expérience, eh bien, il change les données de l'expérience. Et donc, il faut, pour cela, attendez, là, j'ai ici un petit problème, et donc, il faut pour cela laisser la lumière de la connaissance se manifester, et c'est elle qui va réaliser l'unité des deux formes de teshuva. Et ça veut dire qu'après un certain temps, celui qui fait teshuva découvrira qu'il a créé une nouvelle forme de teshuva dans laquelle il n'y a plus de différence entre la teshuva intérieure et la teshuva extérieure, celle d'en haut et celle d'en bas.
Et c'est quelle svira, cette svira
La svira da'at.
Il y a une svira... Oh, dans le keter.
Non, non, non. Il y a deux manières de compter les séphirot. Soit commencer par Keter et continuer par Chochma Bina, soit commencer par Chochma Bina et ça devient Da'at. C'est-à-dire le Da'at, si vous voulez, en termes kabbalistiques, c'est l'expression extérieure du Keter. Mais ça se manifeste plus bas dans la vie pratique.
Merci.
Voilà, nous allons donc passer maintenant à...
Rav, faire la guidemachou.
Bien sûr, allez-y, allez.
Oui, donc, Dan, c'est quelque chose que je ne contrôle pas, comme la digestion, par exemple.
Comme
la digestion.
Oui, mais disons que c'est une digestion, sublime.
Oui,
bien sûr. Ce n'est pas
bien contrôlé. C'est pas contrôlé.
C'est quelque chose qu'on laisse faire. C'est-à-dire, si on essaye trop de définir le Dan, alors, on ne le laisse pas se manifester. Les concepts vont empêcher le dat de se manifester. Voilà, c'est génial. Et donc, puisque c'est comme ça, et que nous avons tout compris, nous allons passer à Yudbet. Atzadikim abehirim. Il y a des tzadikim clairs. C'est quoi des tzadikim clairs? Ça veut dire qu'il y a des tzadikim qui ne sont pas très clairs, mais il y a des tzadikim qui sont clairs, n'est-ce pas? Et donc, le problème de savoir quelle est la différence entre des tzadikim clairs et des tzadikim qui ne sont pas clairs. Quand on n'est pas clair, c'est qu'on est sombre. N'est-ce pas? Alors, si vous cherchez quelque chose qui n'est pas très clair chez les tzadikim, vous devez chercher des tzadikim qui sont plutôt de couleur très sombre. Vous pouvez trouver par vous-même la couleur. En tout cas, donc, ce que nous dit ici le Rav Kook, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des tzadikim abeirim, les tzadikim clairs. Alors, c'est quoi? Shéroïm et kol haolam nidon betov. Qui voit le monde entier, qui juge le monde entier par le bien. Hem mezakrim et akol. Il purifie tout. Purifié dans le sens de plus limpide. Il limpifie tout. Mitzad bihirut rayonotehem, grâce à la clarté de leur réflexion, ou mitzad azohar chez la tov ameyushar chez bechefza mataor, et du point de vue de la lumière de bien qui est droite dans leur volonté pure. Ah bon, c'est quoi ce qu'il dit ici, Laura? Il dit qu'il y a une manière de regarder le monde. Le monde est influencé par le regard que l'on porte sur lui. Et les tzadikim abeirim, ils ont une tendance à voir le monde du point de vue du bien. Ça s'appelle le Limud Zchut Ain Tova. Par exemple, la Mishnah dans le traité de Avot nous dit « Celui qui est bienveillant, c'est-à-dire Ain Tova, le bon œil, Mitalmidav chez Abraham Avinu, est un des élèves d'Abraham, notre père. Tandis que celui qui a un mauvais œil, Ain Ra'a, c'est-à-dire qui voit les choses en mal, avec petitesse, de manière étriquée. Mitalmidav shel Bilam Arasha, c'est un élève de Bilam le méchant. Donc les tzadikim abirim appartiennent à cette catégorie des élèves d'Abraham Avinu. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ces tzadikim abirim? Hem mesalkim et kol kilkule haolam, vet kol arisha mi yesodam. Ils suppriment toutes les déficiences du monde et toute la méchanceté à leur base. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de lutter contre le mal. Soit on engage une lutte du bien contre le mal, soit on supprime le mal à sa racine. Alors c'est ce que font les tzadikim abeirim, ils suppriment le mal à sa racine. Comment font-ils?
En regardant, en comprenant, en jugeant le monde.
En comprenant. D'ailleurs, nous allons voir, le Rav va expliquer ça dans le moindre détail. Hem ma'amidim et kol atruna shel ha'sichlut veshel ha'resha shel ha'olam betor masakim. Ils considèrent tous les caractères d'ignorance et de méchanceté qu'il y a dans le monde comme des écrans. Shem rak metaknim et azrachat ha'or, qui ne font qu'améliorer l'illumination de la lumière. C'est-à-dire, si vous avez une lumière trop forte, vous avez besoin de la tamiser. Mechinim lo makom, sheyuchal le'ahir ba'olam. Il prépare, c'est-à-dire, tous les mots qu'il y a dans le monde, M-A-U-X, se prépare le lieu dans lequel cette lumière pourra se manifester dans le monde. Aval lo mekalkelim velo meharsimoto, mais ne sont pas capables de le détériorer et de le détruire. Ve'adavar talui bemida ta'or atzma. Et cela dépend de la proportion de lumière en elle-même. Qui? Ora kedosha metzumtsemet. Quand il y a une lumière de sainteté petite. Aloenat zichasitumim kedelafsher et ta'ana miziva. Cette lumière n'a pas besoin d'être obscurcie pour qu'on puisse profiter de son illumination. C'est-à-dire, si vous avez une petite lumière à donner, n'essayez pas de mettre un rideau. Déjà en soi, la lumière est faible. Ve'alken, les Gaberika, c'est pour ça que par rapport à elle, kol gasut, kol nitiot chomriot, ve kalva chomer kol risha ve sir uksilut, toute grossièreté, toute tendance matérialiste, et à plus forte raison si c'est de la méchanceté et de l'ignorance, Ari be'atzma davar mekalkel est en soi quelque chose de détériorant, me'avet ou mahli, qui détourne, qui déforme et qui rend malade. Vaneshama mitashteshet al yadam, et l'âme en est troublée à cause d'eux. Vanefesh mitmalet rogez, et la personne se remplit de colère. Holi vaketsef, de maladie et de colère, al-mitsiutam, du fait même de leur existence. C'est-à-dire que si vous êtes porteur d'une petite lumière, dès que quelqu'un s'oppose à votre lumière, alors vous êtes frustré. Ma-she-en-ken gora la tzadikim ha-elyonim, mais ce n'est pas le lot des tzadikim supérieurs. Ba-le-a askala e-elohit ha-be-ira, qui portent en eux une connaissance divine claire, Nos'e tahara taratson, qui porte en eux la pureté de la volonté, She'aor amavik ha'elyon shochen bahem, et chez qui la lumière brillante et supérieure réside en eux. Hem makirim, ils comprennent. She'aor atahor, huarbe yoter gadol mikoach ha'olam, que la lumière pure est beaucoup plus grande que la force qu'a le monde, la cette auto de le supporter. Veim kolze mukhachu liot nir baolam, mais qui quand même doit se manifester dans le monde. Vechrachu, c'est pour ça qu'il est nécessaire. Mitzad teva haolam, du fait de la nature du monde. Sheyu masakim rabim leastir et haor, qu'il y ait de nombreux écrans pour cacher la lumière. Et les écrans sont la méchanceté et ceux qui la portent, les méchants. Venimtsa, shekol ele gamken, miklal tikun sidro shel olam hem. Et donc il en résulte que cela aussi fait partie de la réparation de l'ordre du monde. C'est-à-dire que pour les tzadikim clairs, le mal n'est pas véritablement un mal, il est une nécessité pour amoindrir la force de la lumière. La lumière est trop forte pour être portée par le monde, et donc il faut que les méchants mettent un peu plus d'écran. Alors pourquoi ? Alors quelle est la souffrance des tzadikim ? Quand même, les tzadikim souffrent. Eh bien, ils souffrent pour les autres tzadikim. Les autres tzadikim, c'est ils souffrent de la souffrance des tzadikim. La chen kol Ikar Godel Tsaharam, et c'est pour ça que l'essentiel de leur grande souffrance, Alohu Mimash et Mitztaharim Bale Haora Mitsumtsam, ils souffrent de la souffrance de ceux qui ont des petites lumières. She'en Bekocham Lirot et Kol Hahasha'a Kula, qui n'ont pas la capacité de voir. Attendez, il y a ici un problème, je pense, de Mekol. Kolarisha, c'est ça. Il y a ici un problème de, il y a une erreur de. Et Kolarisha Kula, qui ne sont pas capables de voir comment est-ce que tout le mal, Enenaki Masach n'est qu'un écran, Ametaken et Azrachat Aor qui tamise l'illumination, le rayonnement de la lumière. C'est-à-dire que les grands tzadikim, ceux qui sont clairs, souffrent de la souffrance des tzadikim qui ne sont pas clairs. Ils se disent comme c'est dommage que les tzadikim un peu sombres, un peu noirs, souffrent de l'écran qui empêche l'abondance de lumière. Je pense que ce que dit le Rav est très clair, n'est-ce pas?
D'où il sort ça, le Rav Kook?
De la Kabbalah. Et
comment?
Comment?
Non, parce que ça, c'est énorme ce que vous venez d'expliquer là.
C'est absolument
là.
Énorme, bien sûr.
D'ailleurs, c'est difficile à porter.
Oui, mais écoutez, il amène ici une petite phrase tirée du Zohar. Regardez, Alken, c'est pour ça. Até Mashiach, que le Mashiach doit venir, le Atava, le Tzadikaya Bityuvta, pour faire Teshuvah au Tzadikim. Hmm. C'est-à-dire que. C'est-à-dire
pourquoi
que,
il doit faire cette.
Ben justement, il doit faire Teshuvah de leur souffrance, de ne pas avoir compris que le mal qu'il y a dans le monde, en fait, fait partie d'un projet. Et donc, ils souffrent réellement. C'est-à-dire que pour les petits tzadikim, l'abondance d'obscurité est quelque chose de terrible. Et donc, on a besoin du Mashiach pour leur faire teshuva. Par contre, les Rechaim, on n'a pas besoin du Mashiach pour leur faire teshuva. Il suffit qu'il y ait des rabbins sympathiques. Tandis que pour amener les tzadikim à faire teshuva, alors on a besoin de la puissance du Mashiach.
Mais d'un autre côté, là, Rav, comment on sait qu'il y a des tzadikim behirim à cette puissance-là?
Ah ben, ça y en a. Par exemple, le Rav Kook en était un. Okay. Je suppose que parmi l'auditoire de ce cours, il y a certainement quelques tzadikim behirim ou tzadikot behirot. Je ne connais pas personnellement chacun, mais je suppose. Bon, uveit alut tzadikim. L'imidat ateshuvah ha'eliona yukar lahem, et lorsque les tzadikim s'élèveront à la teshuvah supérieure, c'est alors qu'ils comprendront she'aor ha'gadol ulein heker, que cette lumière, cette grande lumière, est infinie. Ve'u mofia ba'olam ke'izuz gevurat chasadav, et qu'elle apparaît dans le monde par la puissance de la vaillance de sa générosité. Ça veut dire quoi? Le mot « gevura », qui veut dire « vaillance », signifie ce qui est une réducteur, c'est-à-dire le « tzimtzum ». C'est-à-dire que pour qu'une générosité, un « chesed », puisse être acquis comme il se doit, il faut un peu le réduire. C'est-à-dire si, par exemple, je vous donne une abondance de bonbons, eh bien, ça sera un mal. Il faut donc donner un bonbon à la fois. D'accord. Veloulé à Masachim Arabim Shebaim Alide Kolsugi Arishut. Et s'il n'y avait pas ces nombreux écrans qui viennent de toutes les sortes de méchancetés, Hachomriyot Vauchaniyot, Vauchaniyot, qu'ils soient matériels ou spirituels, Haya Haola Mitashtesh Merovziv, le monde serait totalement effacé à cause de l'abondance de rayonnement. Et donc, il se trouve que tout revient à la réparation du monde. Et c'est ça qui va entraîner tous les Rechaim à se réparer et à revenir vers le bien. Lorsqu'ils comprendront leur rôle. C'est-à-dire que quand les Rechaim auront compris qu'ils étaient là uniquement pour tamiser la lumière, ils feront teshuva. Vikar onsham shel ha'reshaim. Alors c'est quoi le châtiment des reshaim? L'essentiel du châtiment des reshaim, al asher tsi'aru et atzadikim ba'olam ha'metzumtzam. C'est parce qu'ils ont peiné les tzadikim qui vivent dans le monde réduit. C'est-à-dire, on peut dire que la punition des Rechaïm, c'est de ne pas avoir tenu compte de la souffrance qu'ils causent aux tzadikim moyens. Mais les tzadikim purs, les Rechaïm n'ont pas pu vraiment leur faire de la peine, parce que les tzadikim purs, eux, ils ont les tzadikim clairs, l'essentiel de leur souffrance, c'est du fait que les tzadikim moyens ne comprennent pas le rôle des Rechaïm. Et les tzadikim qui se tiennent dans l'étendue de Dieu, c'est-à-dire l'étendue de la vision supérieure, c'est eux qui vont faire sortir les Rechaim de toute l'étroitesse de la fosse, de l'enfer. Et tout est empli de puissance et de délices. Ovre behemek abacha, ceux qui passent dans la vallée de la perplexité, ma'ayan yeshitu, et c'est eux qui mettront en place une source, gam berachot ya'ate more, et ils amèneront également abondance de bénédictions. Yelechou mechayil el chayil, ils iront de puissance en puissance. Yirae el Elohim betzion, qui sera vu par Dieu à Tzion. Il y a dans le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, on parle des différents sages qui avaient des appréhensions par rapport à l'époque messianique. Ils avaient peur. Et l'expression qu'ils emploient, c'est qu'ils viennent et que je ne le vois pas. Yete vela yachmine. On voit ça chez plusieurs sages, à savoir Oula et Rabba et Rabbi Yochanan. Ce sont trois sages qui disent expressément dans le Talmud, nous ne voulons pas être présents au temps messianique parce que nous savons quelle souffrance cela impliquera. Mais il y a là-bas un sage du nom de Rav Yosef. Rav Yosef dit qu'il vienne et que je puisse m'installer à l'ombre des crottins de son âne. Bon, c'est une expression un peu forte. Pourquoi est-ce que Rav Yosef a besoin de s'installer à l'ombre des crottins d'un âne? Surtout que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un crottin, ce n'est pas très grand. Ça ne fait pas tellement d'ombre. À moins que l'âne n'avance pas. Or, l'âne du Mashiach, ce sont les moyens qui amènent la Géoula, ce sont les véhicules. Et parfois, le véhicule de la Géoula n'avance pas. Et donc, il y a abondance de crottins, c'est-à-dire abondance de mal. Et alors, les Amoraïm, les sages du Talmud, se disent, on ne peut pas supporter ça. Mais Rav Yosef dit, non, pas du tout. Je vois que ça fait de l'ombre pour nous protéger d'un soleil brûlant qui monte au temps de la Géoula. On a besoin d'être protégé un peu à la manière dont des matériaux radioactifs ont besoin d'être enveloppés de plomb. Le plomb n'est pas un beau métal, mais il protège du rayonnement. Eh bien, c'est un peu ça que dit Rav Yosef. Moi, je comprends que ces choses qui semblent obscurcir la lumière de la Géoula, en fait, font partie d'un plan de tamisement de la lumière. C'est-à-dire, c'est très bien que nous vivons ce temps où les écrans permettent d'appréhender la lumière de la Shekhina qui revient à Tzion. Eh bien, chers amis, nous allons passer au chapitre Yudzayin. Haït Galut Agedola chez la Teshuva, Behaye Israël, ou Vitriato Beharzo. C'est-à-dire la grande révélation de la Teshuvah dans la vie d'Israël et dans sa résurrection dans notre pays. Il y a écrit ici Be'artzeno, mais dans le texte que j'ai, il y a écrit Be'artzo. Alors que faire? C'est donc qu'il y a une erreur dans la copie. C'est pas grave. Et donc, c'est un chapitre qui nous explique les éléments de
poser une question.
Comment?
Est-ce que je peux poser une question sur le chapitre d'avant?
Mais bien sûr.
Dans la prière, il y a une phrase. Alors bon, là, j'ai pas la traduction que j'ai d'habituellement.
Oui.
Mais et tous les méchants retourneront à toi. Tous les habitants de la terre sauront et reconnaîtront que devant toi tout genou doit fléchir et que toute langue doit jurer. Devant toi, ô Éternel notre Dieu, ils s'agenouilleront et se prosterneront, et dans certaines versions, c'est ils tomberont. Est-ce que c'est justement cet excès de lumière? Et ils rendront hommage en l'honneur de ton nom.
Ça, c'est la Teshuvah universelle dont vous parlez.
Oui, c'est dans la prière. C'est
dans Alléluia, bien sûr, je connais ce texte. Je le dis tous les jours, trois fois
et
par jour.
Et pourquoi c'est « ils tomberont » dans certaines traductions?
« Ichriaou veipolou ». Ils tomberont », ça veut dire « ils tomberont à genoux ». Ça ne veut pas dire « la chute ». C'est « tomber à genoux ». C'est une expression hébraïque. Ça n'a pas la connotation de destructive, non pas du tout.
Donc c'est pas que certains ne supportent pas la lumière et quittent leur corps.
Non, 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 pas de ça. C'est pas ça dont il est question. En tout cas, pas dans ce texte-là.
Mais ça, c'est quelque chose dont il est question dans d'autres textes.
Quoi, ben, la chute du mal, la chute des méchants, oui, bien sûr. Ça, on en a partout, aussi bien dans la Bible que dans les paroles des sages. On dit que le mal sera un jour éliminé. Mais il y a deux manières d'éliminer le mal. Soit vous luttez contre le mal, et alors donc vous avez une victoire, mais une victoire relative. Tandis que si vous supprimez le mal à son origine, c'est-à-dire vous comprenez le rôle que remplit le mal, alors vous le supprimez dès son origine et donc il se sublime, il s'adoucit, pour employer l'expression consacrée. Merci. Et ça, c'est tout le problème de la relation entre le bien et le mal. C'est un sujet extrêmement vaste dans le judaïsme. Si vous voulez, il y a dans le deuxième tome de Orot HaKodesh du Rav Kook, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Omek Tov ve'Omek Ra », la profondeur du bien et la profondeur du mal, dans lequel ces choses sont discutées. Eh bien, nous allons passer au chapitre Yud Zayin. Donc, pour le Rav Kook, nous allons découvrir ici les éléments de Teshuvah liés au mouvement sioniste, dans le sens de le sionisme dans le sens large du terme, c'est-à-dire le retour d'Israël à sa terre. Le retour, historiquement parlant, n'a pas commencé avec le mouvement sioniste mondial. L'organisation sioniste mondiale a été fondée en 1897, il y a eu un congrès universel, mais déjà, bien avant, il y avait ce qu'on appelait les amants de Sion, les Chovevei Tzion, et tout cela est venu après déjà des mouvements de Aliya qui ont commencé à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, et donc il y avait déjà, et en fait depuis l'exil des Juifs d'Espagne, il y a commencé un mouvement de retour vers Eretz Israël, ce qui a abouti finalement à la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la fondation de l'État d'Israël, et puis toute l'histoire de l'État d'Israël depuis. Et tout ça, pour le Rav Kook, est un mouvement général et collectif de Teshuvah, et dont la profondeur est souvent cachée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ici un chapitre entier qui va traiter de ce phénomène. Voilà. Donc je reprends ici le titre, Aïd Galout, Agdola chez la Teshuvah, la révélation, la grande révélation de la Teshuvah, Bechaye Israël, dans la vie d'Israël, Uvitriato, et dans sa résurrection nationale, sa résurrection, Be'artso, dans son pays. Je sais qu'il est écrit ici Be'artsenu, mais je ne suis pas responsable des fautes de copiste. Donc, Be'artso, dans sa terre, dans son pays. Voyons d'abord le premier paragraphe. Tehiyat Ha'uma, la résurrection nationale. Yesod shel binyan ha'teshuvah gedola est le fondement de la construction de la grande teshuvah. Teshuvat Israël ha'eliona, la teshuvah supérieure d'Israël, ou teshuvat ha'olam kulo shetavoh acharea, et la teshuvah du monde entier qui en sera la conséquence. Alors là, on peut se dire qu'il y a ici un optimisme absolument incroyable, parce que ceux qui ont construit l'État, ceux qui étaient les acteurs du sionisme, eh bien, ces acteurs du sionisme n'étaient pas religieux.
D'accord.
Donc, a priori, bah, pas toujours. Et donc, a priori, on peut se dire que ce n'est pas du tout un mouvement de teshuvah, mais au contraire, un mouvement de sécularisation. Et ça, c'est un grand principe dans l'analyse du droit international et de ce qu'on appelle les sciences politiques. C'est quand un mouvement religieux devient politique, il se sécularise. Une des preuves, on peut dire, le sionisme. Étant donné que le judaïsme, avant le sionisme, agissait essentiellement comme une religion, à partir du moment où il est devenu étatique, alors il a perdu sa dimension religieuse. Et pourtant, le Rav Kook dit non, non, ne vous y trompez pas, ce qui se passe là est un véritable mouvement de teshuvah authentique. C'est-à-dire que la Torah et les mitzvot, telles qu'elles ont été accomplies et perçues pendant le temps de la Galoute, c'était en fait une réduction du message originel de la Torah, et que la Torah, dans sa grande plénitude, dans son intégrité, va se manifester à travers ce mouvement de teshuvah nationale, qui est porté par des chilonim et qui va se révéler comme étant la manifestation de la grande teshuva qui viendra par la suite. Et cette grande teshuva qui viendra par la suite va entraîner encore une autre forme de teshuva qui est la teshuva universelle.
Si Rav Kook utilise le mot triyat ha'uma, ça veut dire que c'est seulement en Anachnu Bechaim quand on revient.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la résurrection nationale. C'est-à-dire que du point de vue de la vie nationale, la vie étatique et politique, pendant le temps de la galoute, on était comme des morts. C'est-à-dire qu'il y avait une vie individuelle ou même communautaire, mais il n'y avait pas de vie nationale. On était très loin de ça. On avait cessé de faire partie de la scène politique. On parlait de la religion juive comme on parle de la religion chrétienne. Mm-hmm. Mais on ne parlait pas du peuple juif comme on parle du peuple français ou du peuple allemand. Et donc, il y a ici une histoire de confusion qui s'est produite. Qu'est-ce que nous sommes ? Est-ce que nous sommes une religion ou est-ce que nous sommes une nation ? Du point de vue du Tanakh, c'est très clair. Israël est une nation. Cette nation a reçu la Torah. Mais la définition originelle n'est pas une définition de type religieux, c'est une définition de type national. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Dieu s'en mêle. C'est vrai, mais Dieu, ce n'est pas la religion. Dieu, c'est le créateur du monde. Ouais. Et Dieu se mêle de tout. Il se mêle de religion, il se mêle de politique, il se mêle du réchauffement climatique. Tout l'intéresse. Et donc, on peut dire que ce qu'a fait la Géoula, qui a commencé par le mouvement sioniste, c'est qu'elle a restitué une image de la divinité beaucoup plus large que ce qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire, le bon Dieu n'est pas le président du consistoire universel.
Oui, justement, j'allais vous poser la question que Napoléon l'a dit, tout pour les personnes, mais rien pour la nation.
Ça, c'était Napoléon. D'accord, est-ce que c'est la Torah ? Voilà, nous allons donc nous arrêter là et continuer la prochaine fois. Shalom à tout le monde.
Okay. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Tov, au revoir.